Oui, Seigneur, avec humilité, avec une crainte respectueuse et révérentielle, nous nous asseyons, ou plutôt nous nous tournons vers toi et prenons place à tes pieds et te tendons une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que toute pensée vagabonde, que toute pensée de la chair, que toute pensée qui viendrait du monde des ténèbres, ô Dieu, ne soit pas la bienvenue en nous. Sois notre bouclier face à toutes ces pensées, que nos cœurs soient ouverts maintenant à l'action de ton Saint-Esprit au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous et révèle-nous la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Alléluia. Comme je l'avais annoncé, eh bien aujourd'hui nous allons démarrer un nouveau thème. Nous allons démarrer toute une série d'enseignements concernant une des vérités centrales de la parole de Dieu, une des grandes révélations du Dieu de la Bible à l'humanité. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons parler d'amour et de l'amour tel que la parole de Dieu nous le révèle. Alléluia. Et notre thème donc est formulé ainsi, marcher dans l'amour à l'instar de Jésus-Christ, à l'exemple de Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ, à l'imitation de Jésus-Christ, alléluia. Donc il ne s'agit pas de marcher dans l'amour comme tel ou tel autre pasteur, tel ou tel autre religieux, tel ou tel autre personne importante marcherait dans l'amour, pas du tout. C'est donc à l'instar du Christ que nous sommes appelés à demeurer dans l'amour et à marcher dans cet amour dont les caractéristiques, comme nous allons le voir, pas aujourd'hui mais dans les dimanches qui viennent, dont les caractéristiques sont au-delà de la raison humaine. Un amour certes quantifiable, puisque l'apôtre Paul, pour essayer de faire comprendre cette vérité sur l'amour qui reste et demeure le plus grand besoin de l'humanité, va donc recourir à des unités qui nous sont familières en parlant de la longueur, de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de cet amour. Vous voyez, c'est donc quelque chose de très important. Et je voudrais que nous puissions rester très attentifs comme nous l'avons été pendant 3 mois, décembre, janvier, février, lorsque pendant plusieurs dimanches, nous avons regardé autour et alentour de la relation qui nous unit désormais à Dieu par et au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons vu pendant plusieurs dimanches combien cette relation était indispensable, était vitale pour chacun de nous. Nous avons vu comment la qualité de cette relation avec le Seigneur déterminait le genre de vie, déterminait la qualité de notre vie. Oui, nous l'avons vu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle doit être la motivation, sur quelle base cette relation repose-t-elle, que ce soit au départ du Seigneur qui nous aime, que ce soit au départ de nous, eh bien, vous l'avez compris, il s'agit en tout et pour tout de l'amour. Alléluia. Marcher dans l'amour, à l'instar, à l'exemple de Jésus-Christ, nous allons lire 2 passages. Aujourd'hui, j'introduirai, c'est simplement une introduction à ce thème très vaste, 1 Jean, chapitre 4, premier épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Et nous poursuivrons notre lecture dans Éphésiens 5, les 2 premiers versets. Commençons avec 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Nous lisons. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu dans le sens de l'expérimenter. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je pourrais ajouter « aime aussi sa sœur ». Et enfin, Éphésiens 5, c'est donc de ce passage d'Éphésiens 5 que j'ai tiré notre thème. Verset 1er, Éphésiens 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice » comme un parfum de bonne odeur. Amen. Gloire au Seigneur. Je me permets de vous rappeler que nous sommes le 5, premier dimanche de ce mois de mars. Le 5, premier dimanche de ce mois, qui est un mois particulier pour nos sœurs, pour la femme. Et à partir donc d'aujourd'hui, comme je l'ai souligné, nous allons débuter cette série d'enseignements autour de ce thème ô combien important, à savoir l'amour avec un grand A. Gloire au Seigneur, alléluia. L'amour avec un grand A. Pourquoi avec un grand A? Pourquoi cette précision? C'est tout simplement parce que le monde dans lequel nous vivons a une conception tout à fait erronée, une conception égoïste et superficielle de l'amour tel que la Bible nous le révèle. Il ne s'agit donc pas de cette caricature, de cette parodie de l'amour tel que nous le trouvons dans notre monde, un amour intéressé. On approche l'autre parce qu'on court après un intérêt, parce qu'il y a un intérêt. Un amour superficiel, un amour gangréné par l'égoïsme ou même par l'égocentrisme. Mais l'amour dont il est question, cet amour avec un grand A, est un amour qu'on ne peut pas glaner, qu'on ne peut pas ramasser sur cette terre. Mais c'est un amour qui nous vient de Dieu. Le véritable amour, le vrai amour, celui dont tout être humain a besoin. Alléluia. Oui, tout être humain a besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'aimer et de se sentir aimé. Mais cet amour vrai, cet amour véritable, après lequel nous languissons tous, après lequel nous inspirons, ne peut pas être fabriqué par l'homme. Ne peut pas, mes amis, voir le jour uniquement par certains efforts, quelle que soit leur noblesse. Vous voyez ? Mais c'est un amour qui nous vient tout droit du cœur même de Dieu. J'insiste là-dessus, voyez-vous, parce que nous essayons par nous-mêmes d'aimer l'autre. Nous essayons par nous-mêmes d'aimer les autres et nous n'arrivons pas. Eh bien, parce que le vrai amour ne peut pas être vécu, ne peut pas être expérimenté comme ça, simplement parce qu'on le veut, simplement parce qu'on le désire. Un simple regard sur notre monde, un simple regard sur le monde dans lequel nous nous trouvons suffit pour se rendre compte, mes amis, que nos sociétés sont de plus en plus impersonnelles, froides, rongées par l'égoïsme et gangrénées par tant de vices à cause justement de l'absence réelle de cet amour, l'amour divin, de ce vrai, de ce véritable amour, amour qui a pour origine, une fois de plus, je serai très redondant, très répétitif, amour qui a pour origine Dieu lui-même. Alléluia. Nous l'avons lu. Dieu est amour. Voilà la plus grande déclaration de la parole de Dieu. Dieu est amour. Avec tout ce que cela implique pour chacun de nous, mais également pour Dieu lui-même. Vous savez tous que le Nouveau Testament, tel que nous l'avons, a été écrit en grec. Et dans la langue grecque, nous trouvons plusieurs verbes pour exprimer le fait d'aimer, plusieurs mots pour parler de l'amour. Vous l'avez certainement lu. Certains d'entre vous le savent, je vais en épingler quelques-uns très très vite. Le premier amour, celui ou le premier mot, celui que nous trouvons plus à travers tout le Nouveau Testament, eh bien c'est le mot agapé, ce qui a donné en français agape. Vous voyez, agapé, et le verbe qui lui est associé, c'est agapao. C'est l'amour profond. C'est l'amour désintéressé. Bref, c'est l'amour divin. Et puis, deuxième mot que le grec utilise, c'est le mot philia, avec le verbe philéo. Et quand on parle de philia, on parle d'une inclinaison vers quelqu'un ou vers quelque chose. Voilà, dans philosophie. L'amour de la sagesse, de la Sophia. Troisième mot qu'on trouve en grec, mais qui ne figure pas du tout dans le Nouveau Testament, c'est le mot eros, qui a donc donné érotique. Et le verbe qui lui est associé, c'est le verbe erao. Et quand on parle d'eros, vous le savez, on parle de l'amour charnel, de l'amour passionnel. Eh bien, ce terme n'est pas du tout utilisé dans le Nouveau Testament. On trouve philia et on trouve agapé. Quatrième mot qu'on trouve également dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est le mot storgé, avec le verbe stergo, qui nous parle de l'amour d'affection. Et enfin, un mot qu'on utilise deux fois traduit par amitié ou camaraderie, c'est le mot hétairos, avec le H, hétairos, camaraderie, amitié, etc. Vous voyez combien cette langue est très très riche, alléluia, pour exprimer, pour parler d'amour, pour parler de l'action d'aimer, eh bien, le grec a plusieurs verbes. Cependant, parmi tous ces verbes, eh bien, le Nouveau Testament privilégie le mot agapé et le verbe agapao, qui est donc son substantif, qui vient de ce verbe-là. Il privilégie ce mot, ce verbe, et ce mot agapé, pour parler de l'amour, de cet amour dont Dieu nous aime, alléluia. Cet amour qui l'a amené à s'incliner vers nous et à nous donner celui qu'il avait de plus cher, à savoir Jésus-Christ, son Fils, bien-aimé, alléluia. Et à propos d'agapao, quelqu'un a fait une très très bonne observation. Il a souligné le fait que ce verbe agapao, et c'est vrai, commence par alpha et se termine par oméga. Pour ceux qui ont fait le grec, même le grec classique. Alpha, le commencement de ce verbe aimer, et oméga, donc la fin. Et le 2, alpha, c'est la première lettre, et oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Alléluia. Et c'est intéressant, puisque dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 8, le Seigneur lui-même dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alléluia et gloire à Dieu. Tout ça pour dire quoi, mes amis? Pour dire que si celui qui se révèle comme étant l'alpha et l'oméga n'est pas avec nous, nous ne pourrions jamais, alors jamais, conjuguer véritablement ce verbe « aimer ». Il y a donc un préalable. Il y a donc quelque chose qui doit se passer en amont si nous voulons conjuguer régulièrement et à tous les temps ce verbe « aimer ». Le conjuguer vis-à-vis de Dieu, le conjuguer vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis des autres. Alléluia. Et donc, la relation, je reviens à la relation avec le Seigneur va nous permettre de recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir, mes amis, expérimenter le vrai amour d'abord envers le Seigneur, puisqu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ceci est le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis, le second, qui va toujours ensemble, qui lui est associé, c'est « tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même ». Toute la loi, comme nous le verrons, se trouve, mes amis, dans ce commandement. Voyez-vous ? Et donc, pour aimer Dieu, nous avons besoin de lui. Pour aimer notre prochain, nous avons besoin de Dieu, alléluia. Et donc c'est un amour qui s'exprime aussi bien sur le plan vertical, c'est-à-dire un amour qui a pour objet le Seigneur lui-même, mais aussi sur le plan horizontal, l'amour envers le prochain, envers l'autre. Voyez-vous ? L'amour. Nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin de se sentir aimés. Alléluia. Un célèbre chansonnier a dit avec raison, on ne peut pas vivre sans amour. Et c'est vrai. Et le problème dans notre monde aujourd'hui, et même ici chez nous, c'est le manque d'amour. Le vrai amour, mes amis. Le vrai amour tel que notre Père en Jésus-Christ, eh bien, nous l'a manifesté. Et à cause de ce manque d'amour, eh bien, nos sociétés vont en vrille. À cause du manque de cet amour, eh bien, nos sociétés, comme je l'ai souligné, sont de plus en plus impersonnelles. Les gens égoïstes, les gens ne voient que leurs intérêts. Vous voyez, et quand on approche l'autre en lui disant « je t'aime », mais en réalité, c'est parce qu'on a vu un intérêt. Donc ce n'est pas un amour profond, ce n'est pas un amour désintéressé, ce n'est pas un amour, mes amis, qui va au-delà de toutes sortes de considérations. Car cet amour-là ne peut nous venir que de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre dit que celui qui est né de Dieu, alors peut aimer. Il peut aimer Dieu et par conséquent aimer son prochain. Oui, aimer véritablement et se sentir véritablement aimé est un véritable besoin pour chacun de nous. Beaucoup de gens sont en souffrance, que ce soit dans le couple, parce qu'il n'y a plus d'amour, ou parce qu'avec le temps, l'autre réalise que l'homme, eh bien, a approché cette fille simplement par intérêt. On a vu que la fille appartenait à une très très bonne famille, une famille ayant un nom ou une renommée, et puis on s'est laissé attirer par tout cela sans qu'il y ait véritablement de l'amour. Et puis un jour, tout bascule. Et puis un jour, eh bien, c'est la forfaiture. Et puis un jour, l'homme s'en va parce que la femme, avec le temps, aura compris qu'il n'y avait rien de véritable amour, mais plutôt un intérêt. C'était simplement pour qu'on dise, « Oh tel, il a épousé la fille de... » Vous savez ça? « Oh, telle fille a épousé le fils de... » Mais sans amour. Chers amis, il est tout à fait possible de vivre dans un monde comme le nôtre, un monde de plus en plus froid, un monde de plus en plus impersonnel. Oui, il est tout à fait possible de vivre sur cette terre et d'expérimenter cet amour dont il est question dans la parole de Dieu, alléluia. Cet amour après lequel nous aspirons tous, cet amour qui est un véritable besoin pour chacun de nous. Personne ne peut dire, oh là là, il m'aime de trop. Oui, on entend dire, ah oui, mais il m'aime de trop. Non, on ne peut pas aimer de trop. Car l'amour de Dieu, c'est un amour sans mesure. Oh, alléluia. Et la mesure de cet amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Oh, alléluia. Et gloire à Dieu. Nous reviendrons avec plus de détails pour définir ce que c'est cet amour. Alléluia. Et donc, cet amour peut être vécu tout en étant dans des sociétés où cet amour n'existe plus. Voyez ? Mais nous ne pouvons l'expérimenter que dans la mesure où nous demeurons en Christ, qui est la manifestation parfaite de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons expérimenter cet amour que dans la mesure où nous demeurons dans la parole du Seigneur. Et ceci demande donc que nous soyons en communion avec lui. Alléluia. Ceci demande que nous ayons une relation de plus en plus profonde. Voilà pourquoi nous avons passé beaucoup de temps pour parler de la relation qui nous unit à Dieu par Jésus-Christ, à partir des images du divin potier et de l'argile, mais aussi du vrai cep et des sarments. C'était pour que nous comprenions qu'il y va de notre vie, que nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas cette relation, et que cette relation doit être considérée par chacun de nous comme étant la priorité des priorités. Gloire au Seigneur. Nous aimerons les autres, et nous aimerons même Dieu, selon la nature, la profondeur de notre relation avec Dieu. Voyez-vous ? Si nous sommes liés à Dieu par un simple fil de rien du tout, comment voulez-vous que nous puissions expérimenter pleinement l'amour de Dieu? Oui, nous avons besoin du Seigneur. Rappelez-vous, pendant plusieurs dimanches, nous avons lu Jean 15, au verset 5, où le Seigneur dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans lui, nous ne pouvons pas aimer véritablement. Sans lui, nous ne pouvons pas aimer Dieu véritablement. C'est donc le Seigneur qui nous rend capables d'aimer de cet amour dont tu nous aimes. Un jour, le Seigneur nous a attirés à lui. Il nous a fait comprendre que nous étions pécheurs. Il nous a délivrés, il nous a libérés du pouvoir des péchés, du pouvoir de Satan. Un jour, il nous a débarrassés des ténèbres spirituelles qui nous environnaient et desquelles nous étions esclaves. Un jour, il nous a délivrés, mes amis, de tous ces démons, de toutes ces pratiques occultes ou autres. Oui, un jour, le Seigneur s'est approché de nous. Alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions indignes, il s'est approché de nous, malgré notre indignité, malgré notre ignominie, l'extrême indignité. Malgré tout cela, le Seigneur s'est approché de nous. Il nous a donné l'occasion de prendre conscience de notre état, état de pécheur, état de rebelle, de prendre conscience des conséquences, de mener une vie sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et puis ensuite, il nous a donné l'occasion, après nous être repentis, de le recevoir dans notre vie. Alléluia. Et depuis, mes amis, il nous a adoptés. Et depuis, il a fait de nous ses enfants. Et depuis, nous appartenons à son royaume. Et depuis, nous sommes actifs. Nous sommes actifs en lui. Depuis, c'est-à-dire de par notre position en Christ, eh bien, il nous bénit, comme la Bible dit, de toute bénédiction dans les lieux célestes. Gloire à Dieu, alléluia. Mais, et ça c'est la question que j'aimerais que nous nous posions tous, qu'est-ce qui a amené le Seigneur, mes amis, qu'est-ce qui a conduit le Seigneur à s'approcher de nous, malgré notre état abominable, malgré notre nature horrible, à s'approcher de nous, à nous attirer à lui et à nous donner la vie éternelle, à nous accorder le pardon? Qu'est-ce qui l'a attiré en nous? Y avait-il quelque chose en nous, auprès de nous, qui l'aurait charmé, qui l'aurait contraint à nous approcher? Pas du tout. Rien, mes amis. Nous étions sous sa colère, nous dit la Bible. À cause du péché, mes amis, la colère de Dieu était suspendue sur nous, comme l'épée de Damoclès. Nous étions sur une pente, et chaque jour qui passait, nous nous dirigeons sûrement vers la ruine et vers la destruction éternelle. Et puis un jour, il tend sa main. Il nous arrête dans cette vie des déchéances, dans cette vie des délitements, des décrépitudes. Et puis un jour, il étend sa main. Alors que le péché nous tirait tout droit vers la tombe, il étend sa main. Cette main qui avait été clouée à Golgotha, à cause de nos péchés et pour nous, il a étendu sa main et il nous a arrêtés à temps avant qu'il ne soit trop tard. Malgré notre indignité, malgré notre bassesse, malgré notre ignominie, notre déshonneur à l'extrême, dû au péché, il a quand même décidé, écoutez-moi bien, il a quand même décidé de t'approcher, toi qui es là ce matin, malgré ta vie. Il a décidé de t'attirer à lui et d'entrer en relation avec lui. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans le passage que nous avons lu, le premier, de 1 Jean 4, où cette déclaration est quasi présente, voyez-vous, récurrente dans ce passage. La réponse est quoi? Car Dieu est... Dieu est amour. Voilà pourquoi tu es là ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu est amour. Voilà pourquoi la terre continue à tourner sur elle-même, malgré les dangers cosmiques qui pourraient s'abattre sur elle. Dieu est amour. Voilà pourquoi les lois physiques que lui a établies permettent à ce que la terre continue à être ce qu'elle est et que la vie y soit. Dieu est amour, c'est pourquoi chaque matin, il nous envoie le soleil. Il fait lever le soleil aussi bien sur le bon que sur le méchant. Dieu est amour, Dieu est amour. C'est pourquoi il t'a donné cette femme avec laquelle tu as eu autant d'enfants. C'est pourquoi il t'a donné cet homme. Dieu est amour, c'est pourquoi il permet que tu sois en vie aujourd'hui. Dieu est amour. Voilà pourquoi il t'a attiré ici. Dieu est amour. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse séduire Dieu, qui puisse charmer Dieu. Arrêtons de fournir des efforts pour attirer Dieu vers nous. Il s'est approché de nous par amour, alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions rebelles, alors que le péché nous habitait. Eh bien, malgré tout cela, lui qui est amour a décidé un jour de nous visiter par Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. L'amour, car Dieu est amour. Si je suis derrière cette chair, ce n'est pas parce que je serai meilleur que vous, c'est parce qu'il m'aime. Si vous êtes assis, c'est parce qu'il vous aime. L'amour, encore l'amour et toujours l'amour. C'est donc l'amour qui est la raison cardinale, la raison principale de l'approche de Dieu, de l'homme, par et à travers Jésus. Jésus lui-même le dit. C'est une parole que tous les enfants de l'école des dimanches connaissent. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'a-t-il fait par amour pour le monde? Il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, mes amis, le monde n'a rien fait. Le monde était sous sa colère. Un monde indigne, un monde rebelle, une humanité déchue, décadente. Mais malgré tout cela, le Seigneur lui-même le dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tout ce que tu es, mon frère et ma sœur, est le produit de son amour. Il n'y a rien que tu as fait pour que tu sois en vie aujourd'hui. Nous sommes en 2020, et puis 2021, eh bien, une période sombre pour l'humanité. Une période trouble à cause de la présence de ces virus mortels, que le virus de la Covid, n'est-ce pas? Combien sont morts? Combien ont été emportés, même de bien-aimés? Des gens que nous connaissions, des gens intelligents, des gens instruits. Voyez-vous, et puis un jour on a appris qu'ils sont partis. Et après cette période trouble, même certains ont eu à choper cette maladie due à la Covid. Aujourd'hui vous êtes là. Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres? Non! L'amour, encore l'amour. Et ça vaut la peine de l'acclamer. La parole de Dieu déclare que Dieu est amour. Dans l'Ancien Testament, c'est par amour qu'il a appelé les patriarches. Quand il a fait partir Abraham de Chaldée pour ce voyage vers la terre promise, ce n'est pas parce qu'Abraham avait fait quelque chose de spécial. Non, c'est par amour. Comme je vous avais dit, souvent nous avons une approche dichotomique qui consiste à séparer Dieu en disant le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce. Laissez-moi vous dire une chose, même dans l'Ancien Testament, la grâce était présente. Israël n'a rien fait de spécial. Lisez l'histoire de ce peuple. Et vous verrez que l'histoire de ce peuple aura été une suite de désobéissances et de rébellions. Mais malgré tout cela, le Seigneur a tenu à ce que ses promesses s'accomplissent. Car il est amour. Mes amis, la Bible, la parole de Dieu affirme une chose formidable, une chose extraordinaire concernant Dieu, le Créateur de toutes choses et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible, parole de Dieu, fait une affirmation qui surpasse absolument tout ce qui n'a jamais été dit sur un Dieu quel qu'il soit. Dieu est amour. Voilà la singularité de la révélation biblique. Dans les autres religions, même monothéistes, on met l'accent sur la bonté, sur la clémence, sur le fait que Dieu est béni, etc. Mais jamais une telle déclaration, jamais une affirmation d'une telle noblesse, d'une telle grandeur. Dieu est amour. Alléluia. Et gloire à Dieu. Une phrase de trois mots, telle une clé, telle une vanne qui ouvre les portes des puissantes écluses des cieux, capables de transformer, susceptibles de transformer, mes amis, toute vie humaine et toute pensée humaine sur cette terre. Si nous pouvions vivre la révélation de cette déclaration, croyez-moi, nos sociétés ne seraient pas ce qu'elles sont. Kinshasa ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Certains quartiers ressemblent à des pétaudières, à des Capharnaüm, où règne le crime, la haine, la méchanceté, le vol. Voyez-vous, tout cela par manque d'amour. La plupart de tous ces jeunes gens qui font partie de ces brigades, ces jeunes gens qui aujourd'hui sont des véritables brigands, avec ce phénomène citadin qu'on appelle les Kuluna, la plupart sont des jeunes qui sont nés sans avoir été désirés. Ils n'ont jamais rencontré le vrai amour. Et quand ils regardent la société, pour eux, la société est la cause de leur malheur. Et que faut-il faire? Il faut détruire ceux qui sont dans la société. L'amour, le vrai amour. Tout ce que Dieu fait pour nous, mes amis, il le fait par amour et non pas par contrainte ni par intérêt. Il n'a aucun intérêt. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse contraindre Dieu, qui puisse forcer Dieu, mes amis, à faire quoi que ce soit pour nous. Tout ce qu'il fait en nous, tout ce qu'il fait autour de nous, il le fait par amour. Oh, alléluia. Nous, les chrétiens, et c'est un mot qui est omniprésent dans notre jargon, dans notre dialecte des Canaan. Nous avons l'habitude de dire souvent que tout est grâce, n'est-ce pas? Et ce, à juste titre, tout est grâce. Hein? Nous sommes là ce matin par la grâce. Tu as ce travail par la grâce, tu n'es pas le seul juriste dans ce pays. Hein? Il y en a qui ont terminé avec brio. Il y en a qui ont eu un parcours académique extraordinaire, mais qui sont nulle part. Et toi, tu es là, tu as un travail. Tu es conseiller dans un cabinet, etc. Tout cela par grâce. Tout est grâce. Oui, c'est vrai. Tout est grâce. Mais la grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? Mes amis, la grâce, c'est l'amour de Dieu en action. C'est l'amour de Dieu à l'œuvre en nous. L'amour de Dieu à l'œuvre autour de nous. Voilà pourquoi nous disons que tout est grâce. Voyez-vous, un de nos frères a échappé à un accident. Ça aurait pu être fatal pour lui et le chauffeur et son chauffeur. Il en est sorti. Il m'a écrit en disant, « Oh, par la grâce de Dieu. » Ça veut dire quoi? Dieu lui a manifesté son amour. La grâce, c'est donc l'amour en action. L'amour à l'œuvre dans ma vie. Tu as les talents que tu as en toi. Eh bien, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, dans son amour, t'a accordé ce talent. Dieu, dans son amour, t'a donné d'être ce que tu es. Quand tu passes, les gens te regardent avec admiration. Oui, bien que tu n'aies plus de cheveux, mais ils te regardent quand même. Autrefois, tu avais toute une touffe de cheveux, l'afro et tout ça. Les gens pouvaient être attirés par tes cheveux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein? Aucun. C'est comme un œuf. Mais les gens te regardent, t'admirent, disent, mais c'est formidable cet homme, il est intelligent. C'est formidable cet homme, il a des responsabilités. Tout cela par... Alléluia. Gloire à Dieu. Cet amour crée en nous une atmosphère de grandeur, une atmosphère d'ouverture et de générosité envers Dieu et envers les autres. Quand cet amour agit en nous, alors nos mains s'ouvrent envers Dieu, envers son Église, son œuvre, mais aussi envers les autres. Oh, alléluia! Quand cet amour nous habite, quand cet amour est opérationnel et dynamique en nous, alors nous devenons généreux. Alors, nous ne menons plus une vie égoïste. Alors nous donnons à Dieu ce qui lui revient, et ce par amour. Nous ne prions pas par contrainte. Je voudrais que vous arrêtiez avec cette notion de contrainte et de peur. Voilà. Je ne sers pas Dieu par peur pour qu'il m'envoie en enfer. C'est vrai, la Bible nous appelle à la crainte. Nous verrons ça. Mais je le fais par amour pour lui. Alléluia. Je donne ma dîme par obéissance. Mais derrière cette obéissance, il y a l'amour que j'ai pour lui. Seigneur, ta parole est précieuse. Puisque je t'aime, j'obéis à ta parole. Puisque je t'aime, j'aime aussi ton Église. Et je la soutiens. Oui, cet amour se manifeste par des actions claires, nettes, réelles. Parce que en nous, cet amour, eh bien, crée une très bonne atmosphère. Je dirais une atmosphère divine. Si Dieu est amour, ça veut dire que là au ciel, là-haut, tout baigne dans l'amour. Tout baigne dans la sainteté, dans la justice. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme qui est condamné pour l'éternité, eh bien, pour lui, c'est l'amour. Et même lorsque nous serons dans son ciel de gloire, laissez-moi vous dire une chose, nous n'oublierons jamais cet amour du Père en voyant les marques des clous dans les mains de notre Sauveur bien-aimé, en voyant la marque dans son côté, nous le dirions, Seigneur, c'est par amour pour nous que tu as subi tout cela. Oh, alléluia. J'ai déjà eu à le dire, je me permets de vous le rappeler. Ce qui a maintenu le Seigneur sur la croix, ce n'était pas tant la force de clou. Non. Non. C'est l'amour pour toi. L'amour pour moi, l'amour pour l'humanité, qu'il est resté pendu sur ce bois infâme de la croix, pendu entre ciel et terre, parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout, parce qu'il a aimé son Père jusqu'au bout, et il a accompli la mission du Père jusqu'au bout. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fait des choses par contrainte vis-à-vis de son Père, mais plutôt par amour. Nous l'avons lu à plus d'une fois dans Jean 15, où il nous dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Tout est amour. Si tu veux jeûner, regarde d'abord les motivations dans ton cœur. Est-ce que tu le fais pour être vu? Alors dans ces cas, c'est le moi que tu veux placer sur le piédestal pour que tout le monde sache que tu es licencié en jeûne, que tu as une maîtrise en prière, que tu as un doctorat en retraite. Car à chaque fois que tu fais quelque chose, eh bien, tu claironnes partout. Il faut que tout le monde sache. Ce n'est plus par amour, nous le verrons. L'amour se vit dans l'humilité. Comme le Seigneur lui-même a dit, ce que ta main gauche fait ne soit pas connu de ta main droite. Mes amis, Dieu est la source, pour terminer, est la source de notre amour. Il nous a aimés au point de sacrifier son propre Fils à la croix. Jésus est donc pour nous l'exemple de ce qu'aimer veut dire. Tout ce qu'il a fait dans sa vie et dans sa mort a été et était la forme suprême de l'amour auquel le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous encourage très fortement, mes amis, à marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Oui, le Seigneur nous aime. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est par amour. La relation qu'il a pour nous, en part de son point de vue, est une relation d'amour. Nous ne devons pas faire quelque chose pour mériter cet amour. Il a décidé de nous aimer. Et en retour, dans cette même relation, il attend de chacun de nous que nous l'aimions, tout simplement. Du même amour dont il nous aime. Et cet amour ne peut pas être le produit de nos propres efforts. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de l'Esprit, les œuvres de la chair, on les énumère, mais le fruit de l'Esprit, d'un côté vous avez les œuvres de la chair, l'immoralité, l'idolâtrie, l'ivrognerie, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, etc. Et de l'autre côté, la Bible nous dit, le fruit de l'Esprit est, deux points, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout cela est produit par le Saint-Esprit. D'où la nécessité d'avoir une relation profonde avec lui, alléluia. Dieu nous a aimés et tout ce qu'il fait pour nous, c'est par amour. Et il voudrait qu'en retour, nous fassions tout par amour pour lui. Je prie parce que je l'aime. Alléluia. Oui, je prie. Prier, c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu, passer du temps avec lui. Mais parce que je l'aime. Tu ne dois pas me tourner vers lui seulement quand je suis dans un besoin. Non, je sais qu'il m'aime. En retour, je l'aime. Quelquefois, je n'ai rien à lui dire. Je vais simplement en lui, je me tais. Et je laisse mon cœur s'exprimer. Je le contemple simplement. 10 minutes après, je suis toujours dans sa présence. Voyez, Dieu est amour. Et aimons-le du même amour dont il nous a aimés. Acclamons son nom. Nous allons prier. Je voudrais inviter chacun de nous à se mettre debout. Je voudrais que nous puissions prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre que cette relation à laquelle il nous appelle, cette relation qui nous lie à lui, doit être une relation qui repose entièrement sur l'amour. Sur l'amour qui va dans les deux sens. De son point de vue, eh bien, il nous a approchés par amour. Et de notre part, nous devons l'aimer par amour. Alléluia. Et tout faire par amour. Je viens à l'église parce que j'aime le Seigneur. Je sais qu'il est là. Dimanche après dimanche, il veut que je me retrouve avec d'autres frères et sœurs pour le louer, pour l'adorer. Je fais tout par amour. Alors prions tous ensemble. Lèvons nos mains et demandons au Seigneur de nous rendre capables de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, en même temps qu'il nous donne cette force, cette capacité d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Alléluia. Oui, prions. Oh, alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour t'aimer du même amour dont tu m'aimes. J'ai besoin de toi, Seigneur, oh Dieu, pour vivre dans cet amour, pour expérimenter cet amour envers toi, cet amour envers les autres. Et comme nous l'avons lu, Seigneur, c'est en demeurant dans ta parole que nous allons demeurer dans ton amour. Mais comment demeurer dans ta parole si tu n'es pas avec nous? Oui, toute capacité à t'aimer et à aimer les autres nous vient de toi, Seigneur. Alors rends-nous capables de t'aimer. Rends-nous capables, Seigneur, de demeurer dans ton amour. Rends-nous capables d'aimer ton Église. Seigneur, ô Dieu, cette Église que tu bâtis, ô Seigneur, par ton Esprit au moyen de ta parole. Seigneur, comment prétendre t'aimer toi plus que ton Église? Comment prétendre t'aimer toi si nous n'aimons pas, ô Dieu, notre frère, notre sœur que nous voyons? Oui, donne-nous de vivre dans l'amour. Que tu nous amènes à amener le changement autour de nous. Le changement dans notre couple, le changement dans notre famille, le changement tout autour de nous, que nous semons l'amour. Oh, merci. Merci pour tout. Seigneur, et c'est dans cette optique-là de l'amour que nous voulons te donner nos offrandes, par amour pour toi, par amour pour ton œuvre. Seigneur, c'est dans cette optique que nous voulons soutenir l'œuvre, Seigneur, de réalisation, notre projet, ô Dieu. Alors accepte, Seigneur, notre argent comme une offrande d'amour, un parfum de bonne odeur, que ce soit en offrande, en dîme, ô Dieu, en libéralité pour soutenir, pour la réalisation du temple, que tout cela vienne du cœur, au nom de Jésus. Amen.